Merci Fabrice. Oui, je vais terminer avec l'Apocalypse ce matin, chapitre 21. Nous étions dans cette série sur les temps de la fin. 21 et début du chapitre 22. On va lire le texte d'abord. Et pour tous ceux qui disent « Oh, l'Apocalypse est compliqué, c'est négatif », eh bien, si vous ne lisez pas l'Apocalypse, vous manquez quelque chose, parce qu'il y a de très belles choses dans l'Apocalypse, en particulier ce chapitre 21. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. » Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus. » Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Celui qui était assis sur le trône dit « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Il ajouta « Écris cela, car ces paroles sont dignes de confiance et vraies. » Puis il me dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source de l'eau de la vie. Le vainqueur recevra cet héritage, je serai son Dieu et il sera mon fils. Quant aux lâches, aux incrédules, aux pécheurs, aux abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, aux sorciers, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre. C'est la seconde mort. Puis un des sept anges qui tenait les sept couples remplis des sept derniers fléaux vint m'adresser la parole et dit « Viens, je te montrerai la femme, l'épouse de l'agneau. » Il me transporta un esprit sur une grande et haute montagne et me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle rayonnait de la gloire de Dieu. Son éclat ressemblait à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Elle était entourée d'une grande et haute muraille avec 12 portes, et à ces portes 12 anges, des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus d'Israël. Il y avait à l'est 3 portes, au nord 3 portes, au sud 3 portes, et à l'ouest 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondations qui portaient les noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. L'ange mesura la ville avec le roseau et trouva 2200 kilomètres. Sa longueur, sa largeur et sa hauteur étaient égales. Il mesura aussi la muraille et trouva 72 mètres, selon la mesure humaine qu'employait l'ange. La muraille était construite en jaspe et la ville était en or pur, transparent comme du verre pur. Les fondations de la muraille de la ville étaient ornées de pierres précieuses de toutes sortes. La première fondation était ornée de jaspe, la deuxième de saphir, la troisième de chalcédoine, la quatrième d'émeraude, la cinquième de sardoine, la sixième de cornaline, la septième de chrysolite, la huitième de béryl, la neuvième de topaze, la dixième de chrysoprase, la onzième d'hyacinthe, la douzième d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était faite d'une seule perle. La place de la ville était en or pur, comme du verre transparent. Je ne vis pas de temple dans la ville, car le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne seront pas fermées de toute la journée, car il n'y aura plus de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à des pratiques abominables et aux mensonges. Il n'entrera que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Puis il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et entre les deux bras du fleuve se trouvait l'arbre de vie, qui produit 12 récoltes. Il donne son fruit chaque mois. J'espère que ça sera comme ça à Pujou aussi, hein, chaque mois des fruits. Et ses feuilles servent à la guérison des nations. Il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs lui rendront un culte. Ils verront son visage et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit et ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de celle du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Il me dit, ces paroles sont dignes de confiance et vraies, et le Dieu de l'Esprit des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Voici, je viens bientôt, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Nous allons nous remettre dans la peau de Jean, hein, Jean l'évangéliste. Hein, il est en présence d'un ange qui lui parle et qui lui dit, hein, au début du chapitre, « Viens, je te montrerai l'épouse, hein, la femme de l'agneau. » Et si vous connaissez la Bible, vous savez que l'épouse, la femme de l'agneau, c'est l'Église. C'est nous, si nous sommes enfants de Dieu, nous faisons partie de ce corps, nous sommes l'épouse de Christ. Et quand l'ange dit « Viens, je te montrerai l'épouse », on s'attend à voir une foule immense, bien sûr, qui représente l'Église. Et donc, il nous transporte avec Jean, voilà, sur une grande et haute montagne. Et là, nous ouvrons les yeux et nous découvrons une ville. Une ville. Une ville immense. Vous frottez peut-être un peu les yeux, vous dites, bon, je ne comprends pas. Il me dit, je vais te montrer l'épouse, et il montre une ville. Et vous savez, c'est un peu comme ici-bas. On dit, je vais à l'église, en parlant du bâtiment, mais l'église, c'est aussi et surtout les personnes. Voilà. L'église, c'est son corps, le corps de Christ, ce sont des personnes, c'est des pierres vivantes. Mais voilà, l'église, c'est aussi un bâtiment. Et là, il n'y aura pas de place dans un bâtiment pour toute l'église. Ça sera une ville immense, plus de 2000 kilomètres de côté. Et c'est vrai que quand Jean contemple cette ville, certainement que l'éclat l'éblouit. Hein, il doit un peu cligner des yeux parce que c'est plus brillant que le soleil. Donc cette ville, elle descend du ciel d'auprès de Dieu. Dieu a préparé ce lieu. Hein, depuis le temps qu'on nous parle de soucoupe volante et d'ovni, eh bien voilà, cette fois-ci, c'est autre chose. Hein, c'est encore mieux. Donc, un vaste carré, on peut estimer que, en gros, ça irait de l'Irlande, de Belfast, jusqu'à Gibraltar, au sud de l'Espagne, puis à Athènes, en Grèce, et ça remonterait jusqu'au-dessus de Varsovie, en Pologne. Voilà les dimensions de la ville céleste, de la Jérusalem céleste. Immense. 10 fois la France, 5 millions de kilomètres carrés. C'est pour cela que l'ange nous a transportés avec Jean sur une grande et haute montagne pour qu'il puisse voir, contempler cette ville. Sous la ville, il y a comme un arc-en-ciel, 12 fondations aux couleurs de l'arc-en-ciel. Chaque fondation est ornée de pierres précieuses, de toutes les couleurs. Alors, l'améthyste violet, le saphir bleu, l'émeraude vert, le topaze jaune, des pierres violettes, rouges, orangées. Et sur chaque fondement, chaque fondation, les noms des 12 apôtres. Pierre, Jacques, Jean. Ce qui étonne aussi, c'est que cette ville a une muraille énorme, qui l'entoure, soit plus de 70 mètres de haut, 20 étages à peu près. Mais la particularité, c'est que cette muraille, elle est transparente. peut voir au travers. On dirait du diamant, du cristal. On y reviendra. Et puis vous apercevez des portes, 3 de chaque côté, 12 portes, sur lesquelles sont écrits les noms des 12 tribus d'Israël. On voit à la fois l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, Israël, les 12 tribus, les apôtres, l'Église. Espacés de centaines de kilomètres, une porte pourrait être en Espagne, une autre en Italie, une autre en Grèce, si vous voulez, pour donner une estimation. Et j'aime bien cette image pour dire voilà, que toutes les nations sont venues des disciples, tous les pays au sud, parce qu'on situe cette ville, bien sûr, en Israël, si vous voulez. Donc tous ceux qui viennent du sud, tous les peuples qui viennent d'Afrique et d'Océanie, peut-être, voilà, ils passeraient par ces portes qui viennent du sud. Tous les peuples qui viennent d'Asie, voilà, d'Inde, de Chine, etc., ils passeraient par les portes qui viennent de l'Est. Tous ceux qui viennent du Nord, l'Allemagne et la Pologne, et voilà, peut-être l'Europe aussi en partie, voilà, viendraient par les portes du Nord. Et puis tous ceux qui viennent d'Amérique et des îles, les portes de l'Ouest. Chaque porte en perles. Il y a un chant qu'on chante avec les enfants, derrière la porte de perles, c'est ça. Jésus m'attend. Jésus vous attend derrière cette porte. Ce qui frappe en entrant dans cette ville, c'est la lumière. De partout, la lumière rayonne. Le sol est en or pur, transparent comme du verre. L'arc-en-ciel sous les pieds, c'est magnifique. Mais d'où vient cette lumière? Ce n'est pas celle du soleil, ce n'est pas celle de la lune, ce n'est pas une lumière artificielle. Elle vient du centre de la ville, du cœur de la ville, parce que Dieu est là. Cette lumière, c'est la gloire de Dieu, mes amis, la gloire de Dieu, qui va éclairer cette ville, qui va nous éclairer. Et là, vous tombez à genoux pour adorer le Seigneur, évidemment. Que faire d'autre que de l'adorer et de le bénir, ce Dieu Tout-Puissant. Et l'agneau qui est là, au cœur de la ville, sur le trône. Et là, pour terminer, l'ange vous montre un fleuve, pur comme du cristal, qui sort du trône, voilà, et qui coule au milieu de la place de la ville. Il y a une immense place. De chaque côté des arbres que vous n'avez pas remarqué au premier abord, l'arbre de vie qui est retrouvé, le paradis perdu qui est retrouvé. Et puis on va s'arrêter là. On va s'arrêter là parce que j'avais préparé ce message et une nuit que j'avais un peu d'insomnie, le Seigneur m'a dit c'est quand même ton dernier message, il faut que tu apportes une conclusion. C'est-à-dire, je ne vais pas apporter des choses nouvelles. Et j'ai pensé à donner un petit résumé de ce qui me paraît essentiel à transmettre, que j'ai déjà transmis dans le passé. J'aimerais revenir sur les 5 points importants de la vie chrétienne. Si vous gardez cela en tête, ça sera pour vous une aide précieuse, mes amis. C'est des choses très simples, mais qui sont fondamentales. J'aimerais revenir sur ces 5 choses importantes. On va les retrouver dans le texte. La première chose, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible, dans votre vie. Lisez-la, étudiez-la, méditez-la, usez-la comme la mienne, pas un morceau, celle-là. Coloriez-la, surlignez-la, annotez-la. Vous savez, les Bibles à commentaires, là, Thomson, Scofield, etc., qu'on utilise, en fait, ce sont des Bibles qui sont le fruit des notes de ces hommes, Scofield, Thomson, qui ont annoté leur Bible, ils ont noté des commentaires sur leur Bible, et après, voilà, ça a été rajouté dans des versions. Donc, n'ayez pas peur de les annoter, vos Bibles, de les utiliser, Passez à des Bibles d'études aussi, chrétiens. Ne vous contentez pas des petites Bibles à 1,90 €. Étudiez la parole de Dieu. Méditez-la. C'est important. Nous sommes une église biblique avant d'être une église baptiste. Donc, on veut vraiment. Voilà, je vous encourage vraiment à connaître la parole de Dieu, à la méditer, à l'étudier. Cette église aussi a été fondée en partie grâce à l'action biblique. Il ne faut pas l'oublier parce que. plusieurs frères et sœurs d'Action biblique se sont joints à nous au début de l'œuvre. Et le principe de l'Action biblique, c'était la diffusion de la Bible, faire connaître la Bible, la parole de Dieu. Et je voulais saluer ici Luca et Véronique, voilà, qui sont toujours là, hein, qui sont issus de l'Action biblique, ainsi que la maman de Luca, qui est quelque part là-bas, voilà, là, voilà qui a aussi travaillé en Italie, à Genoa, hein, pour la parole de Dieu. Et puis les parents de Véronique, voilà. Monsieur Madame Schutz, qui était colporteur, hein, travaillait à la maison de la Bible aussi, voilà. Dans notre église, on a toujours à cœur la diffusion de la Bible, hein. C'est très important. Donc, être des hommes et des femmes de la Bible. On relit ces versets, 21.5 dans l'Apocalypse, regardez justement ce qu'il est dit. 21.5, la deuxième partie. « Écris cela, car ces paroles sont dignes de confiance et vraies. » Voilà. Il faut avoir confiance dans la parole de Dieu. C'est répété au chapitre 22, verset 6. « Ces paroles sont dignes de confiance et vraies. » Véritable, voilà. Donc, la Bible. Tout ira bien, mes amis. Ça, c'est un signe pour dire ça va, tout va bien. Mais tout ira bien si vous mettez la Bible en premier, bien sûr, numéro un dans votre vie. Si vous n'avez pas un culte personnel, si vous ne lisez pas la parole, la mémorisez pas, tout le reste ne tiendra pas. Vous savez, le pouce, c'est peut-être le doigt le plus important. Si vous n'avez plus de pouce, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Le pouce est très important. Donc la Bible, c'est l'essentiel, le fondement. La deuxième chose, c'est un autre doigt de la main, c'est le majeur, voilà, le plus grand, voilà, le majeur. Et pour moi, quelque chose de très important dans la vie chrétienne après la lecture de la Bible, c'est la prière. Voilà, la plus grande chose, certainement. Dans notre église, nous avons eu une sœur qui était une femme de prière, elle s'appelait Simone, elle est auprès du Seigneur maintenant. Et tous ceux qui ont connu Simone se souviennent encore de ses prières. C'était une femme qui priait simplement, mais avec profondeur. Et chaque fois, nous étions édifiés par ses prières. Voilà. L'importance de la prière. J'ai une épouse aussi qui prie et qui peut obtenir des réponses incroyables quand elle prie. Faites attention à ce que vous lui demandez, si vous demandez de prier, parce que ça risque d'arriver. Elle a une ligne directe avec le Seigneur, sûrement. Voilà. Je remercie aussi les Pierrette et Armand qui nous édifient toujours par leur prière, dans les réunions, dans les cultes. C'est aussi un don. Hein. J'aime bien les acrostiches, vous savez. Et donc, avec prier, je vais vous redire cet acrostiche avec les lettres de prier. P, P comme pardon. Et quand on prie, il faut d'abord demander pardon au Seigneur. On néglige trop souvent de confesser ses péchés. C'est très important dans nos prières de mettre la confession des péchés. Demander pardon au Seigneur pour nos fautes. Mais peut-être aussi aux frères et sœurs. Confessez vos péchés les uns aux autres. Ne négligeons pas cela. P comme pardon, R comme remercier. Soyons reconnaissants, n'oublions pas la reconnaissance. Nous demandons, nous recevons, remercions le Seigneur. Pensez à rendre grâce à Dieu pour ses réponses aux prières et pour ses bienfaits. I comme intercéder. Intercéder, c'est prier pour les autres. Personnellement, je suis plutôt un intercesseur et depuis ma conversion, j'ai toujours eu des très longues listes de prières. Des très longues listes et il y a quelques années, j'avais pris à cœur de prier pour les jeunes et pour les enfants. Et à un moment donné, j'avais 300 jeunes pour lesquels je priais. Je priais pour que Dieu sauve, appelle au ministère aussi des jeunes. Prier, c'est aussi eux comme exalter, adorer. Mettez l'adoration aussi dans vos prières. Regardez ce que dit l'ange au chapitre 22, verset 8. Quand Jean tombe à ses pieds pour l'adorer, il est tellement impressionné. Au verset 9, pardon, à la fin du verset 9, il dit « Adore Dieu ». Voilà, « Adore Dieu ». La prière, c'est aussi l'adoration, la louange. Vous pouvez chanter, vous pouvez adorer le Seigneur. C'est important. Et puis enfin, prier, c'est la lettre R, pour des requêtes personnelles. Nous devons prier pour nous-mêmes, des requêtes. Nous pouvons demander pour nous-mêmes. C'est important. J'ai entendu des chrétiens qui disaient « Moi, je ne prie jamais pour moi, je prie que pour les autres ». Est-ce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de prier pour eux-mêmes, hein? Non, c'est un tort. Nous devons prier pour nous-mêmes aussi. Nous avons besoin de dépendre du Seigneur. La prière. Troisième doigt important, c'est l'index. L'index qui sert à montrer une direction, à montrer le chemin, à montrer le chemin du ciel en Jésus-Christ. Hein? C'est l'évangélisation, c'est le témoignage. C'est quelque chose d'essentiel dans la vie chrétienne. si vous ne partagez pas votre foi, que ce soit en privé ou en public, dans la rue, comme on le fait avec les stands, il manque quelque chose dans votre vie. C'est très important. C'est essentiel de témoigner et d'évangéliser. Vous ne pouvez pas garder ce trésor pour vous-même, comme dit un cantique. Hein. Cette église a débuté dans la rue. Au début, nous étions notre famille, ma femme et mes trois enfants. Il y avait une missionnaire qui s'appelait Caroline, voilà, qui, avec sa guitare. On allait chanter dans la rue. Ça a commencé dans la rue. On allait évangéliser, hein, avec des chants, des traités. Et puis, on a continué, hein, régulièrement. On a chanté dans la rue pour Noël, pour la fête de la musique, diffusant des centaines de Bibles. Et gloire à Dieu depuis... un an et demi, hein, sur l'instigation de notre frère Marcel, d'ailleurs Marcel Marchioni, qui a eu cette idée de lancer cette évangélisation sur Nice par des petits chariots mobiles. Hein, voilà. Eh bien, nous évangélisons le vendredi matin, le samedi matin. Fanny, Eddy sont particulièrement fidèles à ce niveau-là pour répandre la parole de Dieu. Le témoignage dans la rue, le témoignage personnel au travail, en famille, hein, voilà, c'est essentiel. Et vous remarquerez ici que dans ce chapitre, on ne parle pas de l'évangélisation tellement, il n'y a pas... C'est fini, c'est trop tard, on est au ciel, là, voilà. C'est maintenant qu'il faut évangéliser. Quand on sera là-haut, hein, ça sera terminé. Vous avez noté aussi qu'il y avait 12 portes, cette ville, hein, qui peut symboliser, voilà, toutes les nations qui viennent des quatre coins du monde. Mais aujourd'hui, il n'y a pas 12 portes pour aller au ciel, mes amis. Il n'y en a qu'une. Si vous n'êtes pas encore entré par la seule porte... Faites-le. C'est Jésus la porte. Jésus a dit, je suis la porte. Celui qui entrera par moi sera sauvé. Voilà. N'ayez pas peur. Jésus vous attend derrière la porte de perles, il est dit, hein, mais aujourd'hui c'est lui la porte. Et s'il y a des murailles dans cette ville, c'est peut-être simplement, elles sont transparentes, hein, simplement pour montrer la sécurité de notre salut. Nous sommes en sécurité quand nous franchissons la porte de Jésus. Voilà, ne perdons pas ce si grand salut. Quatrième point important, c'est ce dos-là qu'on appelle l'annulaire, n'est-ce pas ? L'annulaire, et qui parle du mariage, hein, qui parle de l'Église. L'Église, voilà, qui est mariée à Christ, hein, hein, c'est l'épouse. Chapitre 21, verset 2, on va le relire. Hein, 21, verset 2. « Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée, comme une épouse qui s'est faite belle. » Pour son époux. C'est beau. L'Église. L'Église, c'est un lieu où l'on reçoit, bien sûr, mais ceci un lieu où l'on donne. J'ai toujours mis l'accent sur l'engagement des chrétiens. Toujours encourager les chrétiens à servir. Ça m'a pris un peu de temps pour comprendre que les chrétiens devaient servir, mais selon leurs dons. Trop souvent, je le reconnais, il y avait un besoin, et puis je cherchais quelqu'un, voilà, pour voir au besoin. Mais parfois, la personne n'avait pas le don. Elle n'était pas à sa place. Et Dieu m'a montré que c'est très important, voilà, de servir selon les dons. Tout le monde n'est pas appelé à chanter, tout le monde n'est pas appelé à enseigner. Chacun a des dons différents. Hein. Alors c'est vrai que j'ai certainement commis des erreurs, confié des tâches à des personnes qui n'étaient pas qualifiées, d'avoir confié des tâches trop tôt, des échecs. Mais il y a eu de belles réussites aussi. Et ça, gloire à Dieu. Hein. Gloire à Dieu pour ceux qui ont grandi. Certains pourraient témoigner que parfois je les ai un peu poussés, mais ils ont dit merci de m'avoir un peu poussé. Je pense à Luca, qui me redisait, ouais, il avait un peu de mal à se décider, mais aujourd'hui, il ne regrette pas. Voilà. Donc, l'Église. Vous ne pouvez pas vivre une vie chrétienne sans Église. La Bible dit, celui qui reste à l'écart cherche ce qui lui plaît. On ne peut pas rester à l'écart. On a besoin d'être réunis avec les frères et sœurs. On a besoin de donner et de recevoir. Et puis, finalement, on en arrive au cinquième point. Cette fois-ci, c'est toute la main, finalement, parce que c'est le petit doigt, là, l'auriculaire. Mais bon, quand on l'utilise, là, c'est pour dire stop. Stop au péché. Non au péché. Voilà, maintenant. C'est la sainteté, la sanctification. Résister au diable. C'est un texte qui m'a beaucoup encouragé. C'est une parole qui m'a beaucoup encouragé. Il y a eu un bon message d'Andou sur le sujet. Résister au diable et il fuira loin de vous. Voilà. Non au péché, non au diable. Regardez chapitre 22, verset 11. C'est très important cet aspect de la vie chrétienne. On ne peut pas vivre une vie qui soit agréable à Dieu s'il n'y a pas cette marche dans la sainteté. Verset 11, 22, 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Il y a deux chemins qui se séparent. Il y a ceux qui sont dans le péché, qui s'enfoncent dans le péché, dans la souillure, dans le mal. Par contre, si vous avez fait le choix de suivre Jésus-Christ, de vivre pour lui, c'est la justice, c'est la sainteté que Dieu vous demande. Vous êtes saint, dit le Seigneur, parce que vous avez cru en Jésus-Christ. Vous êtes mis à part. Dieu vous voit saint. Vous êtes saint, mais Dieu dit, soyez saint aussi. C'est-à-dire, devenez saint dans la pratique, dans la vie quotidienne. Et j'aime bien l'image ici de ces murs qui sont transparents, justement. Les murs sont transparents, le sol est transparent. Dans cette ville, on ne cache rien. Transparence totale. La sainteté, c'est la transparence totale. On a demandé un jour à un petit enfant, qu'est-ce qu'un saint ? Et il a répondu, un saint, c'est quelqu'un qui laisse passer la lumière. Vous savez pourquoi il a répondu ça ? Parce qu'il avait l'image de ses saints sur des vitraux, certainement dans les églises, vous savez. Hein, et donc, ces personnages qui laissaient passer la lumière. Donc, mais c'est une belle définition de la sainteté, n'est-ce pas ? Un saint, c'est quelqu'un qui laisse passer la lumière du Seigneur, qui est transparent vis-à-vis du Seigneur, qui ne cache rien au Seigneur, qui confesse ses péchés, on l'a dit, mais aussi vis-à-vis des autres. Hein, c'est très important. Marcher dans la lumière. Pas d'obscurité, il n'y aura pas de nuit. Hein. La lumière de Dieu sera partout. Il n'y aura rien de sale au ciel non plus. Hein. Pas de péché. Je vous encourage, une pratique que j'ai faite moi-même, c'est d'établir une liste de vertus chrétiennes, de A à Z, de amour jusqu'au zèle. Voilà. Vous faites une bonne liste là et vous priez pour ça. Vous demandez au Seigneur de vous donner chacune de ces vertus. Hein. Vous verrez, ça peut vous aider hein, à confesser vos péchés, parfois, justement, par manquement, ou à rechercher ces vertus. Donc, on dit, hein, les cinq doigts, ils sont liés comme les doigts de la main. Voilà, c'est pour dire, voilà, chaque point est indissociable. S'il n'y a pas le premier point, hein, la parole de Dieu, le reste ne suivra pas. Vous pouvez être actif dans l'Église, vous pouvez servir, mais si vous ne lisez pas la Bible, si vous n'avez pas une communion avec Dieu, ça ne sera que de l'apparence. Que le Seigneur vous aide à prendre à cœur ces choses. Parce que vous avez là les cinq piliers de la vie chrétienne, finalement, les cinq fondements de la vie chrétienne. Je vous laisse, voilà, cette image de la main, voilà, que vous puissiez la garder à l'esprit et prendre à cœur de vivre hein, cette vie dans la parole, dans la prière, dans le témoignage, dans l'Église et dans la sainteté. Nous allons prier maintenant. Vous inclinez devant le Seigneur, c'est une occasion pour vous de donner votre vie à Christ. Nous avons toujours eu à cœur dans cette église d'appeler à la fin des cultes, donner un appel pour le salut. Parce que nous croyons que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, mais il fait preuve de patience envers tous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance et au salut. Seigneur, je veux te remercier pour ces années de ministère, ici à Nice. C'est toi qui as bâti cette église, Seigneur. C'est toi qui as sauvé. C'est toi qui as amené au baptême, à l'engagement, à la consécration. Seigneur, merci parce qu'au moment de partir, nous pouvons regarder en arrière et dire « Le Seigneur a été fidèle. Le Seigneur a été bon. Le Seigneur a pourvu à nos besoins matériels et spirituels. » Seigneur, je te confie maintenant ce troupeau, cette église, c'est ton église, Seigneur, tu es le grand berger, tu en prendras soin. Tu pourvoiras pour un pasteur un jour, dans ton temps. Je te remets Fabrice et Andou qui auront la charge de l'enseignement. Donne-leur ta sagesse, remplis-les du Saint-Esprit, Seigneur. Je te prie pour chaque membre, chaque chrétien qui est engagé dans un poste de responsabilité pour qu'il puisse continuer à l'assurer avec spiritualité, Seigneur. Que chacun soit un homme et une femme de la Bible, un homme et une femme de prière, un homme et une femme qui évangélisent, qui témoignent. Un homme et une femme qui mènent une vie sainte et pieuse. Seigneur, maintenant je te prie pour ceux ici qui ne seraient pas à toi encore, enfants ou adultes, qui ne t'auraient pas donné leur cœur et leur vie pour que ce matin, ils saisissent l'occasion, ils saisissent ta main et disent « Seigneur Jésus, je crois en toi, je veux être sauvé. » Pendant que nous sommes recueillis dans la prière, j'aimerais vous donner l'occasion ce matin, ce dimanche 19 mai 2019, qui sera peut-être marqué dans votre Bible un jour, pour dire « Ce jour-là, j'ai été sauvé. » L'occasion de donner votre vie à Christ. Qui ce matin ici veut croire que Jésus-Christ est mort pour lui? Qui ce matin veut dire « Seigneur, sauve-moi. Seigneur, donne-moi cette grâce de la vie éternelle que tu as accordée à Elias, que tu as accordée à Daniel. » Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin ici qui aimerait donner son cœur au Seigneur? Vous pouvez juste lever la main pour dire « Priez pour moi. Priez pour moi, pasteur. Je ne suis pas encore sûr, mais je veux être sauvé. Priez pour moi. » Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être sauvé ce matin? Je veux croire que dans votre cœur, vous priez maintenant. Peut-être qu'il y a une lutte dans votre cœur. Je prie pour vous. Seigneur, je prie. Je prie pour ces âmes qui luttent peut-être avec toi ce matin. C'est ton œuvre, Seigneur, ce n'est pas la mienne. Seigneur, je prie que tu attires. Par ce filet d'amour, comme nous l'avons dit ce matin, ce filet jeté dans la mer, Seigneur, et que tu donnes la joie de voir encore des âmes se tourner vers toi. Je te le prie par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Je laisse la main à Fabrice.